Je m'en souviens maintenant. Je me souviens de comment tout a commencé. Je ne me souviens pas d'avant. Je me souviens simplement d'avoir fait ce qu'on m'a demandé. Geoff Tate. Chapitre 1. Curieusement, ce fut moins la douleur que l'étonnement qui frappa le professeur Toussaint lorsqu'il reçut le premier coup, terrassé par cet objet métallique qui avait ouvert ses chairs et fracassé son crâne. Il s'effondra sur le carrelage froid du laboratoire de la faculté de chimie. Comme un dernier sarcasme du destin, alors qu'il ne lui restait que quelques instants à vivre, sa chute lui sembla durer une éternité. « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène !» Georges Toussaint n'entendit pas les paroles de son agresseur. Hagard, il se redressa avec difficulté, mais ne parvint qu'à se mettre à genoux. Le scientifique porta la main à sa tête. Il sentit une plaie béante, de laquelle s'écoulait du sang qui s'insinuait entre ses doigts, maculant d'abord la manche de sa blouse, avant de se répandre en gouttes écarlates sur le carrelage beige. Lorsqu'il releva la tête, le sang dessinait déjà un masque sordide. Il écarquilla les yeux, puis tendit la main vers son assaillant pour l'implorer de l'épargner. Il lut dans le regard gris du bourreau une détermination farouche, la froide volonté de s'acquitter de sa mission. Il n'y aurait pas de miséricorde. Sur le visage du professeur Toussaint, la stupéfaction fit alors place à la frayeur. Balbutiant quelques mots incompréhensibles, il essaya péniblement de se relever en s'appuyant sur la paillasse avant de recevoir un deuxième coup au front qui interrompit son mouvement. Il s'écroula une nouvelle fois, emportant dans sa chute un râtelier d'éprouvettes qui se brisèrent avec fracas, projetant de petits éclats de verre tout autour de lui. Au sol, des liquides multicolores se mêlaient au sang. Les gestes du professeur n'étaient plus que le réflexe désordonné d'un corps privé de contrôle, une dernière manifestation de la vie dépourvue de logique et de sens, tentant désespérément de s'agripper à quelque chose pour ne pas sombrer dans le néant. Ses yeux s'agitaient dans leurs orbites, cherchant vainement une échappatoire, n'en trouvant aucune. Il voulut crier, non pour appeler à l'aide, puisque les lieux avaient été désertés plusieurs heures auparavant, mais parce que la peur de mourir était trop insoutenable pour demeurer intérieure. Le cri ne vint jamais. L'ombre enjamba le professeur, sa main gantée se resserrant sur l'objet qu'elle tenait, puis elle se pencha et lui infligea un nouveau coup à la tête. L'os craqua avec un bruit de bois sec. Décidément peu clémente, la mort refusa encore de l'emporter et, au lieu de s'achever à cet instant, le supplice du professeur Toussaint ne faisait en réalité que commencer. Chapitre 2. En se garant sur le parking de l'Université de Strasbourg, non loin de l'entrée principale, Canel Pourson savait qu'elle n'était pas la première. Elle fut tout de même surprise du nombre de véhicules de police déjà sur place. Les fourgonnettes des équipes d'investigation scientifique étaient venues s'ajouter aux voitures banalisées et à une ambulance. Elle descendit, boutonna son anorak et releva son col, saisie par le froid matinal de cette journée de janvier. Il lui fallait un café. Elle détestait ce quartier qu'elle connaissait bien pour y être intervenue trop souvent. Ces barres d'immeubles immenses, érigées à la hâte afin de satisfaire la demande de logement à l'époque du baby-boom, défiguraient la ville. D'architecture sommaire, haute de plus de 40 mètres, elle se dressait, aussi nombreuse qu'inhospitalière. Un urbaniste avait cru bon de les couvrir de peinture bleue pâle, sans doute pour en adoucir les lignes et leur donner un peu de gaieté. Peine perdue. On avait moins l'impression d'être à Miami que dans les faubourgs de Volgograd. L'hiver n'arrangeait rien. Le complexe universitaire ne déparait pas ce paysage morose. Il était composé de plusieurs bâtiments de styles différents, construits dans les années 1960 et 1970. Canel Pourson avait fait ses études à quelques centaines de mètres de là, dans une construction atypique en arc de cercle, ouvrant sur une large esplanade où, lorsque la saison le permettait, elle révisait ses cours de droit pénal, assise sur l'herbe pelée. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à cette fac où elle avait passé tant d'années. Les façades avaient un peu noirci. Face à elle se dressait la faculté de chimie, surmontée d'une tour qui n'avait jamais été belle et dont le sommet se perdait dans le brouillard. L'ensemble formait une grande masse grise, impersonnelle. Elle se dirigea vers l'entrée principale où elle fut accueillie par un policier en uniforme qui la salua. « Bonjour, commissaire, on vous attend là-haut. »«
Merci. Dites, vous savez où je peux trouver un café ?»«
Oui, il y a une cafétéria juste là. » L'agent lui indiqua une salle à droite du hall où se trouvaient des distributeurs de boissons. Du coin de l'œil, elle avait bien remarqué ses collègues qui patientaient, mais elle avait vraiment besoin d'un café, surtout dans un moment pareil. La tâche du commissaire Pourson était délicate. Les équipes en place étaient parfaitement compétentes pour traiter seules et avec tout le sérieux requis ce genre d'affaires, et la voir ainsi débarquer pour prendre les choses en main risquait d'être moyennement appréciée. Si elle avait reçu tôt ce matin-là un appel du procureur de la République pour lui confier personnellement cette enquête, c'était parce que la victime était une sommité. On ne traitait pas un Nobel assassiné comme un dealer abattu lors d'un règlement de compte. Et puis, il faudrait très certainement composer avec les médias, autant de raisons motivant le recours à un officier chevronné. Elle devenait donc la pilote de cette mystérieuse affaire. Or, elle se mettait à la place de ces hommes, car elle connaissait, pour l'avoir déjà vécu, le sentiment de frustration des enquêteurs lorsqu'un supérieur débarquait et prenait le contrôle. Surtout une femme. Pourson aimait ces hommes et ne voulait froisser personne. Elle appréciait l'étrange alchimie créée par le mélange de sensibilité, d'énergies et d'expériences de vie différentes, au service d'une cause commune, la justice. De surcroît, elle obtiendrait de bien meilleurs résultats si elle les impliquait pleinement dans cette enquête. À l'inverse, elle savait qu'en les dominant, elle les priverait de leur sens de l'initiative et musellerait leur instinct. Elle devrait donc faire preuve de beaucoup de tact. Le café était infect, mais elle s'en contenterait. Un gobelet à la main, elle se dirigea vers deux policiers en civil qui se trouvaient dans le grand hall. « Bonjour, Frédéric. Bonjour, Jeff.
Bonjour, commissaire.
Alors ?» Ce fut Frédéric qui se lança.
« La victime s'appelle Georges Toussaint, professeur émérite à l'Université de Strasbourg, prix Nobel de chimie, de nombreuses récompenses, quantité de prix honorifiques, bref, un ponte. »
« Que s'est-il passé ?»«
Il a été sauvagement assassiné dans la nuit. »«
Sauvagement ?»«
Vous allez voir. »
Canel Pourson fronça les sourcils. « Sauvagement. » Dans la police, ce n'était pas un terme que l'on employait de manière inconsidérée.
À ce point-là ?
Oui, à ce point-là.
Je n'ai jamais rien vu de pareil,
avoua-t-il en hochant la tête. Pourson le fixa un instant, surprise que l'un de ses adjoints, pourtant expérimenté, semble aussi secoué. Elle poursuivit.
Bon, vous avez un suspect ?
Pas encore.
On a des témoins ?
Ce serait trop facile, commissaire.
Vous en êtes où ?
On a fermé l'établissement. La brigade scientifique est sur la scène de crime. Ils ont déchargé leur matériel et commencé à travailler. Le légiste est en haut. J'ai fait boucler les ascenseurs et l'escalier.
Pourquoi? C'est à quel étage?
Au cinquième.
Ok. Quoi d'autre?
Le second policier, qui jusque-là était demeuré silencieux, prit la parole.
On a recueilli la déclaration de la personne qui a découvert le corps, une laborantine qui travaillait avec le professeur depuis 6 ans. Elle ne sait pas grand-chose, elle est arrivée un peu avant 8 heures, comme d'habitude. Elle est sous le choc.
Veillez à ce qu'elle bénéficie d'une prise en charge psychologique.
On a aussi vérifié s'il y avait des caméras de surveillance. Ce n'est pas le cas, malheureusement.
Même à l'extérieur?
La plus proche se trouve à l'intersection de la rue de Londres et de l'avenue du Général de Gaulle, à plus de 150 mètres d'ici, et ne couvre pas cet axe.